monsieur, monsieur l'abbé. Effectivement, Saint Jean de la Croix est un auteur difficile. Et avant, quand monsieur l'abbé Roscoe m'a demandé de faire cette conférence, je vous avoue bien franchement que je ne connaissais pas Saint Jean de la Croix. Au séminaire, on a un petit peu entendu parler de Saint Jean de la Croix, mais je n'avais jamais lu ses œuvres. Alors depuis quelques semaines, je m'y suis plongé un peu, et effectivement, Saint Jean de la Croix est un très grand auteur spirituel. Si vous voulez, je vais, avant de parler de la doctrine mystique de notre saint, dont on parle aujourd'hui, Saint Jean de la Croix, je vais rapidement retracer sa vie, le contexte dans lequel il a vécu. Puis, d'abord, avant de parler de sa vie, le contexte historique. Il a vécu en Espagne au XVIe siècle. Donc, voyons les saints qui ont vécu à cette époque où Saint Jean de la Croix va vivre. Ensuite, la vie du saint. Et puis, plus particulièrement, nous verrons ensuite, ce sera la deuxième partie, si vous voulez, la doctrine mystique du saint. Mais avant de voir sa doctrine mystique, il faudra poser quelques jalons, quelques points de repère sur ce qu'est la contemplation. Car Saint Jean de la Croix est un auteur mystique. Donc, qui dit mystique, dit contemplation. Peut-être le mot de mystique vous effraie un petit peu, mais rassurez-vous, c'est la vie chrétienne que de contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout de suite, voyons le contexte historique religieux au XVIe siècle. Vous savez que le XVIe siècle est un siècle qui va renaître spirituellement, car avant le XVIe siècle, il y a malheureusement dans l'Église, ou plutôt hors de l'Église, un personnage qui s'appelle Luther. Luther qui est un moine défroqué, et Luther non seulement emporte avec lui son hérésie, mais beaucoup d'âmes consacrées, et même une très grande partie de l'Europe. Alors, il va falloir reconstruire. Il faut reconstruire, et Dieu suscitera bien des saints dans l'Europe catholique pour faire revivre la catholicité, alors qu'elle était bien perdue, ou en tout cas, bien en danger de ruine totale. Nous sommes donc au XVIe siècle, et le protestantisme a ravagé, par ses erreurs fondamentales, la chrétienté. Bien des catholiques ont été troublés par la chute de beaucoup, ont été ébranlés, et certains, bien sûr, même dans les couvents, dans les monastères, certains se sont relâchés de la première ferveur. Les couvents eux-mêmes n'ont pas été exempts de cette décrépitude, de cette déperdition de ferveur, et l'esprit du monde, quand l'esprit de Dieu n'est plus là, eh bien, il y a un phénomène de va-et-vient. Si l'esprit de Dieu est là, l'esprit du monde s'en va. Mais le contraire est malheureusement bien vrai aussi. Si l'esprit de Dieu s'en va, l'esprit du monde vient. Et beaucoup plus facilement que l'esprit de Dieu. Il est plus facile de détruire que de construire. Si c'est vrai pour le domaine naturel, c'est encore bien plus vrai et les conséquences en sont beaucoup plus grandes dans le domaine spirituel. Vous le comprenez bien évidemment. Donc l'esprit du monde a envahi les maisons religieuses. Mais pas contre-coup. En contre-coup de cela, vont se lever dans ce siècle, de ce XVIe siècle, des âmes généreuses qui vont bien sûr restaurer et vouloir restaurer d'avant tout la sainteté, l'exigence profonde de la vie religieuse. Alors dans toutes les branches, nous verrons des relents de vie spirituelle, des renouveaux intérieurs de vie spirituelle. Chez les bénédictins, vous avez Louis de Blois. Je donne simplement les dates de ces saints pour que vous les situiez ensuite par rapport à Saint Jean de la Croix. Des saints ou en tout cas des âmes saintes, même s'ils n'ont pas été canonisés. Les bénédictins, particulièrement Louis de Blois, qui naît en 1506 et qui meurt en 1566. Tout de suite, je pourrais vous donner les dates de Saint Jean de la Croix. Comme ça, vous verrez, au fur et à mesure, les saints qui ont pu se connaître, car certains se sont connus. Saint Jean de la Croix né en 1542 et mourra en 1591. Donc voilà pour les bénédictins. Et dominicain, le cardinal Cajetan. En 1469, il naît pour mourir en 1534. Cajetan est un des grands commentateurs de saint Thomas d'Aquin. En 1504, naît Louis de Grenade, qui a écrit un ouvrage, particulièrement le Guide des pêcheurs, où il parle des vertus et des vices, donc un bon ouvrage spirituel, le Guide des pêcheurs. Donc, Louis de Grenade, 1504-1588. Voilà pour les dominicains du XVIe siècle. Chez les franciscains, est un ordre très austère, particulièrement chez Saint-Pierre d'Alcantara. Il meurt en 1562 et sera le directeur spirituel de Sainte-Thérèse d'Avila, dont bien sûr il faudra parler, puisque Sainte-Thérèse d'Avila est en grande relation avec Saint-Jean de la Croix dans la réforme du Carmel. Chez les disciples de Saint-Ignace, tout d'abord Saint-Ignace, bien sûr, les Ignatiens, Saint-Ignace lui-même, qui naît en 1491 et qui meurt en 1556. Saint-Robert Bellarmin, 1542-1621. Le vénérable Louis Dupont, qui meurt en 1624. Il sera également le directeur spirituel de Sainte-Thérèse d'Avila. Les Carmes, bien sûr, nous avons vu les dominicains, les franciscains, les ignatiens, les bénédictins. Maintenant, parlons des Carmes. Sainte Thérèse d'Avila, qui naît en 1515 pour mourir en 1582. Et puis, ce grand saint dont on parlera aujourd'hui, Saint Jean de la Croix, qui naît en 1542 et qui meurt en 1591. Voilà pour les Carmes. Un peu plus tard, il y aura chez les Salésiens, bien sûr, Saint François de Sales, qui naît en 1567 et qui meurt en 1622. Mais c'est un petit peu plus tard, je l'ai mis parce que c'est tout un ensemble. Le XVIe siècle, il naît au XVIe siècle, est rempli d'âmes généreuses, d'âmes saintes. Donc, des saints se côtoient. Des saints vont se connaître les uns les autres, et puis, par leur doctrine et surtout par leur vie, vont convertir le monde, convertir les âmes, pour que le sel soit fort, le sel ait beaucoup de saveur. Ils vont relever le monde par leur doctrine et par leur sainteté personnelle. Mais ils n'ont pas oublié cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant à ses apôtres, mais par-delà ses apôtres, à nous tous, bien sûr. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix, et puis, n'oublions pas, qu'il me suive. Eh bien, c'est ce qu'a fait Saint Jean de la Croix. Voyons quelle fut la vie de Saint Jean de la Croix. Une vie extraordinaire, toute de mortification. Son nom, Jean de Yepes, Y, accent aigu, P, accent grave, S. Tout d'abord, une petite histoire. Lorsque Sainte Thérèse d'Avila veut reconstruire, relever l'ordre des Carmes, elle fait appel à plusieurs hommes religieux, plusieurs prêtres. Deux se présentent à elle, un grand, fort, bien bâti, et puis un tout petit, un peu chétif, malingre. Il s'appelait celui-ci Jean de Yepes. Le grand, qui était prieur du couvent de Medina del Campo, je ne sais plus son nom, mais peu importe, le second nous intéresse surtout. Il était jeune prêtre alors et venait tout juste de célébrer sa première messe. Il était petit, chétif, malingre, et s'appelait Jean de Yepes. En religion, il avait pris le nom de Jean de Saint-Mathias, qui changera plus tard contre celui de Jean de la Croix. Et la bienheureuse mère Thérèse d'Avila, faisant allusion à la taille de ces deux recrues, disait avec son journement coutumier, « Pour commencer mon œuvre, la Providence m'a envoyé un religieux et demi. » Voilà pour la petite histoire. Un religieux et demi pour commencer son œuvre. Mais bien sûr, la moitié de portion sera une grande portion dans l'œuvre du bon Dieu. Et elle ne se trompait pas. La réformatrice, lorsqu'elle a demandé à cette moitié de portion de venir rebâtir l'ordre qui s'effondrait malheureusement. Non, elle ne se trompait pas. Et elle l'avait vu en Jean de la Croix, en Jean d'Yepes. Elle avait vu en lui une grande perfection. Et avec elle, elle arrivera à gravir les cimes prodigieuses, vertigineuses, de la contemplation la plus sublime. Sa naissance est assez illustre, quoique son père était réduit à une grande pauvreté. Son nom, c'était un noble de Castille. Notre saint donc naquit en 1542 dans la Castille, une petite partie de l'Espagne. Son père, Gonzalve de Yepes, appartenait à une illustre et ancienne famille, mais sa fortune n'égalait pas sa naissance. Il avait épousé une jeune fille vertueuse et douce, dont la condition était loin de répondre à la sienne. Cette mésalliance mécontenta sa parenté, qui rompit toute relation avec lui. Privé des ressources et des héritages qu'il pouvait légitimement attendre, le malheureux homme dut chercher dans le travail manuel les secours nécessaires, et il apprit donc le métier de tisserand. Il ne tarda pas d'ailleurs à mourir, laissant dans la misère sa femme et ses fils en bas âge. Né pauvre, Jean fut élevé comme les pauvres, et c'est là certainement qu'il a appris le mystère de la croix. Sa pieuse mère lui forma soigneusement son cœur à la piété et lui procura une instruction élémentaire. Mais cependant, l'enfant grandissait et donnait des signes manifestes de vocation. Il fut contraint, pour faire ses études, de recourir à un moyen alors en usage. Il s'engage comme infirmier dans l'hôpital de Medina del Campo, l'hôpital du village. Et puis, tout en se consacrant, bien sûr, à son travail, au service des malades, il va apprendre à lire et à écrire, et puis sera le maître de ses compagnons. À 21 ans, il entre chez les Carmes de l'Observance. Il fait de brillantes études théologiques, et puis est ordonné prêtre. Et durant sa première messe, il révélera plus tard que le bon Dieu l'a gratifié d'une grande faveur. Il assura plus tard que Dieu le confirmait en grâce et le préserverait de tout péché mortel. Le recueillement si profond du jeune religieux, ses rues de pénitence, ne suffisaient pas plus déjà à sa ferveur. Il aspirait à une vie plus austère et plus retirée. Donc, voyez-vous, les carmes chez lesquels il était ne satisfaisaient pas à ses attentes. Il voulait une vie plus rude, plus austère, plus proche de la croix. Il songeait à passer à la Chartreuse lorsqu'il rencontre sainte Thérèse d'Avila. Il devint son coadjuteur et le père du Carmel réformé. Il va passer successivement comme maître de novice et puis prieur dans différents monastères. Ensuite provincial, c'est-à-dire supérieur pour différents couvents. Il va remplir les fonctions les plus importantes de son ordre, mais les épreuves ne lui manquèrent pas. Les carmes mitigés, les carmes qui ne voulaient pas de cette réforme austère que Jean de la Croix avec Thérèse d'Avila avait remise en honneur, donc les carmes mitigés voyaient avec peine les progrès de la réforme qu'ils considéraient comme un schisme. Ils parvinrent à s'emparer du saint et lui firent subir pendant près de 9 mois une cruelle captivité. Mais ce n'est pas la seule pénitence qu'il va souffrir, la seule épreuve qu'il va subir. Souffrance encore plus grande, après avoir tant travaillé pour sa famille religieuse, Son supérieur général le tient comme suspect. Il dépouille de ses charges et lui assigne pour résidence un petit monastère perdu dans les montagnes d'Andalousie. Mais son âme était mûre pour le ciel. Après une longue et douloureuse maladie, Jean Lacroix meurt dans un dernier acte d'amour le 14 décembre 1591, au jour et à l'heure qu'il avait prédit. Il avait alors 49 ans. Une existence donc assez courte, mais pleine de bonté, pleine de charité pour le bon Dieu, pleine d'amour de la croix. Et c'est pour cela qu'il prendra comme nom Jean de la Croix. Donc, voilà la vie brièvement résumée, si vous voulez. Voyons maintenant, après cette vie, la vie du saint, qui peut se résumer dans un seul mot, contemplation, c'est-à-dire chercher Dieu, le trouver et en jouir. Voilà le but cherché par Jean de la Croix. Chercher Dieu, trouver Dieu, jouir de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Parlons maintenant, car c'est notre sujet, vraiment le cœur de notre sujet, parlons de la mystique de Saint Jean de la Croix. Vie mystique, cela peut nous paraître un petit peu ardu, difficile, en nous disant c'est très bien pour des religieux, pour des prêtres, pour des religieuses, mais pour nous qui sommes des âmes baptisées, certes, mais pas des religieux en tout cas, c'est bien difficile. Et pourquoi nous faudrait-il arriver à la contemplation? Eh bien, tout simplement, l'âme baptisée doit parvenir, et c'est une obligation, à la perfection. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Le bon Dieu ne s'adresse pas seulement aux religieux, religieuses, il s'adresse à toute âme baptisée. C'est le serment sur la montagne, et ce sermon s'adresse à toute âme baptisée. Alors, parlons de vie mystique un petit peu. Et nous suivrons quelques principes donnés par le père Garrigou Lagrange dans ce livre admirable, dont je vous recommande la lecture, si vous pouvez, si vous l'avez déjà, et si vous n'avez pas, eh bien, tâchez de vous le procurer peut-être, ça serait une bonne chose. Dans ce livre, Perfection, la perfection chrétienne et contemplation, le père Garrigou Lagrange va nous donner quelques principes de vie mystique, de contemplation. Il va poser trois questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise la vie mystique? Puis, deuxième question, comment commence la vie mystique dans le cours de la vie spirituelle? Et enfin, faut-il avoir une grâce spéciale, ou une vocation spéciale plutôt, faut-il avoir une vocation spéciale pour parvenir à la vie mystique? Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise la vie mystique? Il nous répond. Une passivité spéciale ou la prédominance des dons du Saint-Esprit. Nous avons reçu au baptême, et plus particulièrement au sacrement de confirmation, les dons du Saint-Esprit. Donc cette prédominance des dons du Saint-Esprit, dont le mode suprahumain, bien sûr, ça n'est pas humain, c'est divin, suprahumain, est spécialement distinct, spécifiquement distinct du mode humain des vertus chrétiennes, sans pourtant se confondre avec les grâces gratis datées, grâces absolument gratuites, comme la prophétie. Ces dernières ne sont nullement nécessaires à la vie mystique. C'est des dons absolument gratuits. Mais la vie mystique ne consiste pas dans le don de prophétie. Elles sont en quelque sorte extérieures et données, non pas pour mon propre bien, mais pour le bien de mon prochain. Le prophète parle non pas pour lui-même, mais pour l'utilité du prochain. Tandis que les grâces, la vie mystique, c'est vraiment pour moi, pour mon avancement dans la vie spirituelle. Deuxième question, posée par le père Garrigou Lagrange. Quand commence la vie mystique dans le cours de la vie spirituelle? Normalement, dit-il, répond-il, avec les purifications passives des sens et l'heureusement de recueillement passif dont parle sainte Thérèse d'Avila dans un de ses, dans son ouvrage, ouvrage spirituel à la quatrième demeure. Mais nous ne parlons pas de cela. Faut-il, troisième question, faut-il une vocation spéciale pour y parvenir? Non, en principe. Et il cite Saint Jean de la Croix maintenant. La grâce des vertus et des dons suffit de soi par son développement normal à nous y disposer à la et la contemplation mystique est nécessaire à la pleine perfection de la vie chrétienne. Je répète parce que c'est important, la contemplation mystique est nécessaire à la pleine perfection de la vie chrétienne. Donc non en principe, il ne faut pas une vocation spéciale. Mais de fait, étant donné notre nature déchue, rachetée par la grâce, par le bon Dieu c'est sûr, mais notre nature blessée par les traces du péché originel, par ces blessures du péché originel, de fait, faute de certaines conditions, parfois indépendante de notre volonté, des âmes même généreuses n'y parviendraient qu'après un long temps, un temps plus long que la durée ordinaire de notre existence ici-bas. Comme, faute de certaines conditions, certaines intelligences capables d'une formation intellectuelle supérieure n'y aboutissent pas. Enfin, chez certains plus aptes à la vie active, faisons les dons de l'action qui domine, les dons du Saint-Esprit. Et cet enseignement est antérieur à la doctrine mystique de Saint Jean de la Croix. Vous avez sans doute lu l'Imitation de Jésus-Christ. Tout le monde a l'Imitation de Jésus-Christ à la maison. Et l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ est vraiment un grand mystique. Monseigneur Lefebvre nous avait donné, je me rappelle, dans une conférence spirituelle à Icône, le goût de lire ce livre, bien sûr, l'Imitation de Jésus-Christ, mais aussi une explication de l'imitation de Jésus-Christ par le père Dumas. Le père Dumas, qui était de la Société de Marie. Et le livre, c'est « Introduction à l'union intime avec Dieu ». Le père Dumas, en 550 pages, donne l'explication de l'imitation de Jésus-Christ. Au troisième livre de l'Imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 31, le titre est le suivant, qu'il faut négliger toute créature pour trouver le Créateur. Nous parlerons tout à l'heure des attaches à la créature, car Saint Jean de la Croix va baser sa mystique, sa contemplation mystique, sur le détachement des créatures. Ce qui nous empêche à avancer vers le bon Dieu, à trouver le bon Dieu, ce sont nos attaches, si petites qu'elles soient. Vous connaissez ce texte de Saint Jean de la Croix qui nous dit que vous ayez, qu'un oiseau soit lié par un gros câble d'acier ou une ficelle, si petite soit-elle, qu'on ne la voit même pas, les ficelles en nylon, on ne les voit pas, l'oiseau ne partira jamais vers le ciel. Il ne pourra jamais voler. Pourquoi ? Il est attaché. Nous lirons tout à l'heure ce texte de Saint Jean de la Croix. Donc, qu'il faut négliger toute créature afin de trouver Dieu. Et c'est une grâce qui va nous apporter, nous amener, nous conduire à la contemplation. L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ confesse qu'il lui faut une grâce spéciale supérieure à celle qu'il a déjà reçue. La contemplation est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. N'y arrive pas qui veut par ses propres forces naturelles, uniquement naturelles. Il faut un don de Dieu, une force supérieure qui nous vient de Dieu. La contemplation est un don de Dieu. Il ne le doit ni à nos efforts, ni à nos mérites, mais sa bonté a coutume de ne pas le refuser. Ah voilà, important. Mais sa bonté a la coutume de ne pas la refuser à celui qui répond généreusement aux premières avances de sa grâce. C'est donc timidement que notre méditatif s'approprie la prière de David : « Qui me donnera des ailes comme la colombe, et je volerai et je me reposerai. Voyez l'imitation de Jésus-Christ. Mon Seigneur, j'ai encore besoin d'une plus grande grâce s'il me faut parvenir à cet état où nul homme, nulle créature ne sera un lien pour moi. La tâche dont je parlais tout à l'heure ne sera un lien pour moi. Car tant que je suis retenu par quelque chose, je ne puis librement voler vers vous. Quoi de plus paisible que l'œil simple, c'est-à-dire que l'homme, que l'âme, qui a une intention droite, l'œil simple, et quoi de plus libre que l'homme sans désir sur la terre? Ses ailes, il la connaît. Il les connaît, c'est la pureté et la simplicité. Maintenant, ce qu'il va faire, nous dit le père Dumas, ce qu'il va faire, ce sera de bien considérer la nature de cette hauteur où il aspire, car il désire arriver à la hauteur de Dieu, la nécessité d'y atteindre pour sa véritable perfection et les causes qui peuvent retarder en ce chemin béni. De quoi va se composer la contemplation ? Il faut donner une définition et des éléments pour parvenir à la contemplation. Peut-être vous trouvez que c'est un petit peu ardu, abstrait, mais si vous suivez bien ces quelques jalons que je pose ici, vous, tout à l'heure, vous comprendrez davantage la doctrine mystique de Saint Jean de la Croix. Pour vous aider, vous aurez un petit dessin. Pas fait par moi, mais par Saint Jean de la Croix lui-même. Ça va vous aider à avoir quelque chose sous les yeux. Et pas seulement moi. Alors, voyons la définition et les éléments de la contemplation. Quelle est cette hauteur à laquelle il aspire? Il faut donc, dit l'imitation, il faut donc s'élever au-dessus de tout ce qui est créé, se quitter parfaitement soi-même et demeurant ainsi élevé et comme sorti de soi, bien comprendre que vous, le Créateur de toutes choses, n'êtes en rien semblable à vos créatures. Dieu est différent. Dieu n'est pas une créature, Dieu est le Créateur. Et c'est la folie des temps modernes de mettre Dieu égal à l'homme. Si nous mettons Dieu égal à l'homme, on ne peut plus rien comprendre de la vie, même naturelle. Car on ne peut pas rabaisser Dieu. Il faut nous hisser vers Dieu, et ce travail est un travail difficile. Je vous le concède, ce n'est pas un travail facile. S'élever vers le bon Dieu, c'est un travail difficile, ardu, mais qui en vaut la peine. Il faut tout simplement, comme dans n'importe quelle chose que l'on entreprend, suivre les règles. Non pas les règles du jeu, mais les règles établies par le bon Dieu et aussi par les auteurs mystiques qui ont reçu des grâces d'union, des grâces qui ont fait comprendre ce qu'est un petit peu Dieu. Mais qui comprendra le bon Dieu? Il faut nous y rapprocher. Cette formule précise la célèbre description de la contemplation donnée par Saint Denis l'Aréopagite. Pour vous, ô bien-aimé Timothée, exercez-vous sans relâche aux contemplations mystiques. Laissez de côté les sens et les opérations de l'entendement, de l'intelligence, tout ce qui est matériel et intellectuel, toutes les choses qui sont et celles qui ne sont pas. Et d'un essor surnaturel, allez vous unir aussi intimement que possible à celui qui est élevé par-delà toute essence et toute notion. Alors, délivré du monde sensible et du monde intellectuel, l'âme entre dans la mystérieuse obscurité d'une sainte ignorance et, renonçant à toute donnée scientifique, elle se perd en celui qui ne peut être ni vu ni saisi. Tout entière à ce souverain objet, sans appartenir à elle-même ni à d'autres, unie à l'inconnu par la plus noble portion d'elle-même, et en raison de son renoncement à la science. Enfin, puisant dans cette ignorance absolue une connaissance que l'entendement ne saurait acquérir, car c'est véritablement voir et connaître, c'est louer l'infini d'une façon suréminente de dire qu'il n'est rien de ce qui existe. De Dieu, on dit plutôt ce qu'il n'est pas. Toutes les perfections de Dieu, on va parler en niant ce qui n'est pas. Par exemple, pensez, on va dire de Dieu, il est infini, c'est-à-dire non fini. Il est immuable, il ne change pas. Quand on parle de Dieu, on ne dit pas des choses positives, on dit des choses négatives. Parce que Dieu surpasse nos mots. Nos mots sont des mots humains, et Dieu n'est pas humain, Dieu est divin. Par conséquent, nos mots ne peuvent vraiment aller jusqu'à Dieu. Donc on nie ce qu'il n'est pas, tout simplement. Saint Denis décrit l'acte intellectuel de la contemplation. Notre moine, notre auteur de l'imitation de Jésus-Christ, définit plutôt l'état moral et mental du contemplatif. Mais des deux côtés, les éléments sont essentiellement les mêmes. Abstraction des facultés inférieures, ravissement de l'esprit, expérimentation intraduisible de Dieu. On n'est pas avancé. Hein. C'est bien compliqué. Voyons tout d'abord l'abstraction des facultés inférieures. Les mystiques enseignent, ainsi que Denis, que pour l'acte de contemplation, il faut que l'esprit s'élève au-dessus des images et des raisonnements pour se fixer simplement sur Dieu. Nous nous servons, dit saint Grégoire de Nice, ni des yeux, ni des oreilles, ni de la manière ordinaire de raisonner et de comprendre. En effet, dit saint Jean, l'œil n'a point vu, l'oreille ne l'a pas entendu, et il n'y a rien de ce que l'homme peut comprendre. Il faut, pour parvenir à la contemplation de Dieu, purifier son intelligence de tout ce qui est sensible et matériel, rejeter loin de son esprit tout ce qui vient des sens. Il faut que l'âme renonce à avoir commerce avec son conjoint, alors seulement, elle pourra approcher de la montagne. Et la montagne, tout à l'heure, saint Jean de la Croix va nous parler d'une montagne, une montagne mystérieuse, le dessin qu'il a lui-même fait pour expliquer ce qu'est la vie mystique. Deuxième partie, ravissement de l'esprit ou extase. Comme l'esprit humain, selon sa force native, s'exerce sur les choses sensibles par l'abstraction intellectuelle et sur les idées par la raison discursive, il suit que, pour lui, s'élever au-dessus des données, des sens et du raisonnement, y attacher directement son regard, comme les anges, sur les choses divines, c'est s'élever au-dessus de lui-même, c'est en quelque sorte sortir de sa sphère. Cet élan de l'âme, qui s'oubliant, s'arrachant à elle-même, s'élevant au-dessus de tout le monde créé, se porte vers Dieu de toute sa force, c'est proprement l'extase. Mot si familier aux auteurs du Moyen-Âge, et souvent aujourd'hui si peu compris, hélas. Cette extase, dit saint Thomas d'Aquin, peut avoir pour cause notre puissance affective, mue par un excès d'amour de Dieu et s'élançant vers son bien. Mais aussi, l'Esprit de Dieu peut attirer directement à lui l'Esprit de l'homme, tantôt avec violence, c'est le rapt, tantôt sans violence, c'est le vol de l'âme. Bien sûr, nous sommes très très loin du nirvana des hindous, des bouddhistes. Il y aura le rien, mais c'est le rien pour se porter vers soi-même. Alors que chez les mystiques, et saint Jean d'Aquin en particulier, c'est le rien pour se porter vers le bon Dieu, évidemment. C'est tout à fait différent. L'une et l'autre contemplation, fruit de nos efforts ou en dehors et au-dessus de nos efforts, exige une grâce spéciale que Dieu accorde suivant les secrets de sa miséricorde, mais qu'il est permis de désirer et de demander, hors les dons extérieurs et extraordinaires. Parce que, sans être la sainteté même, cette grâce contribue à notre sanctification. Et je vais vous lire le passage de l'imitation de Jésus-Christ. Pour cela, dit-il, l'auteur, pour cela, il faut une grâce puissante qui soulève l'âme et la ravisse au-dessus d'elle-même. Tant que l'homme n'est pas ainsi élevé en esprit, dégagé des créatures et tout uni à Dieu, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a n'est pas d'un grand prix. C'est petit, c'est peu que d'avoir uniquement cela. Tant que l'homme n'est pas ainsi élevé en esprit, dégagé des créatures et tout uni à Dieu, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il possède n'est pas d'un grand prix. Il faut être dégagé de la créature, du monde, pour avancer vers le bon Dieu. Troisième volet, la contemplation, l'expérimentation mystique. L'objet propre de la contemplation, c'est la vérité divine, c'est Dieu. En effet, la contemplation de Dieu est la fin de toute vie humaine. De toute vie humaine, la contemplation de Dieu. La contemplation de Dieu est la fin de toute vie humaine. Elle est promise, dit saint Augustin, comme le terme de toutes nos actions et la perfection éternelle de toutes nos joies. Nous contemplons Jésus-Christ, il est vrai. Nous nous enfermons dans les plaies de Jésus-Christ, mais c'est pour aller de lui à lui, comme le dit le bienheureux Albert le Grand, Saint Albert le Grand, de lui homme à lui Dieu. Nous allons de Dieu homme à Dieu Dieu. Et c'est toujours Dieu, le point de départ et le point d'arrivée. Longtemps, dit l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, longtemps, il sera petit et rampant, celui qui estime autre chose que le seul, l'unique, l'immense, l'éternel bien. Tout ce qui n'est pas Dieu, ce n'est rien, et doit être compté pour rien. Ce qui nous conduit à la doctrine spéciale de Saint Jean de la Croix. Car le rien, voyez-vous, ce que l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ dit, tout ce qui n'est pas Dieu, ce n'est rien, il doit être compté pour rien. Alors voyons, maintenant ce que va dire Saint Jean de la Croix. Pour cela, j'ai des feuilles à distribuer. Vous verrez sur ce dessin fait par Saint Jean de la Croix lui-même la vie chrétienne, tout simplement. La vie chrétienne, il faut arriver en haut de la montagne. Et bien sûr, ça n'est pas si facile que cela, mais on peut y arriver. Et tout en voyant le dessin, vous verrez les différents chemins, et les différentes paroles marquées, les différents mots. Au fur et à mesure, en vous les indiquant, je vous commenterai les mots donnés par Saint Jean de la Croix. Alors, avant de voir dans le détail les mots mis par Saint Jean de la Croix, les chemins indiqués par lui, il faut dire que la doctrine de Saint Jean de la Croix est résumée dans ce dessin symbolique que lui-même a tracé sa propre main et qu'il destinait à figurer en tête de sa montée du Carmel. Saint Jean de la Croix a écrit 4 volumes. Il n'a pas une grande floraison d'ouvrages. Il a 4 traités. La montée du Carmel, la nuit obscure, le cantique spirituel, et puis un poème d'une 20aine de lettres. Vive flamme d'amour. Un poème, un cantique spirituel. Alors voyons, si vous voulez bien, au fur et à mesure, les différentes parties de cette montagne. Vous avez à gauche, en haut, et puis à droite, un verset de la Sainte Écriture du psaume 67. C'est une montagne grasse, une montagne fertile où il a plu à Dieu d'habiter. Où il a plu à Dieu d'habiter. Donc Dieu habite cette montagne. Avant de faire ce dessin, Jean de la Croix avait écrit en un poème tout ce qu'il a dessiné là-dessus. Et puis pour condenser sa pensée, il a mis sur un dessin vraiment sa pensée. Il a illustré et synthétisé en un dessin la doctrine de la croix. Car il faut parler bien sûr de la croix. Ce dessin représente une montagne, au sommet de laquelle la divine sagesse, vous voyez, à droite, près d'un rayon du Saint-Esprit, la divine sagesse attend l'âme qu'elle doit enrichir de ses dons. Vous aurez les dons de Dieu, les dons du Saint-Esprit, dans la colonne de gauche, un peu comme 2 tables de la loi, comme Moïse au sommet du Sinaï. Vous avez à gauche, sur la partie gauche, les 7 dons, sagesse, science, force, conseil, entendement, intelligence, ton intelligence, piété, crainte de Dieu. Ça, c'est un tableau, une table, que la sagesse divine va nous donner, bien sûr. À droite, ce sont, tiré de saint Paul, aux Galates, chapitre 5, verset 22, les 12 fruits du Saint-Esprit. La charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. 12 fruits du Saint-Esprit énumérés par saint Paul aux Galates. Donc la sagesse divine doit enrichir l'âme de ses dons. Trois sentiers se dirigent vers la montagne. À droite, vous avez une personne qui marche. Vous voyez ce sentier qui, déjà, c'est pas en bas de la montagne. C'est un petit peu monté, déjà. Et puis, ce chemin est sinueux. Il monte. Ah, il redescend bien bas. Bien bas, voyez-vous. Si vous remarquez les pieds de la personne, il y a deux chaînes qui conduisent en enfer. Donc, ce chemin, il faut l'étudier pour ne pas le prendre. Il ne faut pas se tromper de direction. Et saint Jean de la Croix va nous dire comment ne pas se tromper de direction. À droite, donc, le premier chemin se détourne peu à peu du sommet de la montagne pour mener à des précipices. C'est la voie que suivent les âmes pieuses qui se laissent prendre à l'amour des biens de la terre. Les attaches terrestres conduisent à la perdition éternelle. Car Dieu n'est pas le bien ultime cherché par l'âme. Peut-être au départ un petit peu, et puis on glisse peu à peu, mais très certainement, progressivement, vers l'abîme. Le second chemin, tout à l'heure nous reprendrons plus précisément les trois sentiers, plutôt les deux sentiers, car le troisième, ce n'est pas un sentier. Saint Jean de la Croix va nous le dire. Le second sentier à gauche s'avance vers la montagne, mais pour aboutir à une impasse. À une impasse, vous voyez. Il part bien, hop, il redescend, impasse, trompé de chemin. Donc deuxième chemin, ce ne sera pas le bon chemin. Ce chemin, c'est le chemin des âmes imparfaites, retenues par l'amour des biens surnaturels. Même les biens surnaturels peuvent nous détourner à la longue, parce qu'ils ne seront pas bien compris, évidemment, de Dieu. Un seul sentier mène droit au chemin, au sommet de la montagne. À l'entrée de celui-ci, une inscription le définit ainsi que le seul but où il conduit. On y lit un seul mot, six fois répété. Rien, 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 rien. Sixième fois, et en la montagne, rien. Voyez-vous, au départ, ce chemin est très étroit. Puis vous voyez, cinq fois rien. Et en la montagne, rien. C'est vraiment mystérieux, ce cheminement vers la montagne de Dieu. Donc, rien au départ. Rien au départ. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Non, il faut continuer. S'il n'y a rien, c'est bon signe, on continue. Parce qu'on sait, par la foi, qu'au bout du compte, il y a quelque chose. Et c'est bien pour ça que souvent, les âmes s'arrêtent. De la première difficulté, les premières épreuves, il n'y a rien, eh bien, non. C'est que Dieu soit absent, soit il ne m'écoute pas, ou alors je ne plais pas à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut continuer. Saint Jean de la Croix parlera de la nuit obscure. Justement, un de ses traités, ce sera la nuit obscure. Alors reprenons, bon, rapidement, la montagne. Cette montagne symbolise la contemplation. Et si je me suis volontairement étendu sur ce chapitre de contemplation, ça n'est pas pour rien que je l'ai fait, car ça va vous aider peut-être à comprendre un peu plus la contemplation chez saint Jean de la Croix, sa mystique. En bas de la montagne, c'est obscur, mais son sommet est lumineux. Prenez vos épreuves. Pensez à votre vie personnelle. Avec le passé, le recul. Vos épreuves au départ, tout est obscur. Vous ne voyez rien. Et puis, vous continuez. Et peu à peu, le chemin s'illumine. Le chemin s'agrandit, comme ici. Au départ, il y a un tout petit sentier, un chemin, un tout petit. Et puis, ça s'éclaire au fur et à mesure, et l'entrée est plus grande et ardue à gravir. Mais elle aboutit à une prairie toute fleurie. Voyez-vous, c'est une photo, alors c'est pas formidable. Mais sur la montagne, il y a des fleurs, des arbres. Donc, prairie toute fleurie, illuminée et fécondée par les rayons de l'Esprit-Saint qui tombent sur la montagne, sous une forme d'une blanche colombe, voyez-vous, la colombe, avec ses rayons. Le Saint-Esprit domine la montagne par une nuée très claire, sur une nuée très claire. Le Saint, Jean de la Croix, appelle la montagne de la perfection la montée du Carmel. Et vous pouvez lire « Montagne de Dieu, montagne fertile et grasse, montagne sur laquelle Dieu s'est plu à habiter. » Où est-ce que c'est marqué ça ?« Montagne fertile et grasse. » Ah bien sûr, oui, j'ai commencé par ça tout à l'heure. Psaume 67. Je vous ai introduit, ça c'est tout en haut, je vous ai introduit, dit Saint Jean de la Croix, dans la terre du Carmel, pour que vous vous nourrissiez des fruits, de ses fruits et de ses très bons produits. Et encore, la gloire et l'honneur de Dieu habitent seuls sur cette montagne. Seul Dieu réside sur cette montagne du Carmel. Et Carmel veut dire contemplation. Trois sentiers. Il faut reprendre un petit peu plus maintenant, en détail, si vous voulez. Les trois sentiers. Nous avons dit qu'il y avait trois sentiers. Eh bien, voyons-les. Seul celui du milieu représente la voie étroite de la perfection. Seul celui-ci est le sentier de la perfection. Le sentier, c'est le seul qui conduit au sommet. À l'entrée de celui-ci, on y lit un seul mot, six fois répété, rien. Au début, ce chemin est étroit, puis il va en s'élargissant au fur et à mesure qu'il avance. Après les six répétitions du mot rien, cinq fois rien, et en la montagne rien, nada, en espagnol, nada, rien. On y lit, déjà par ici, il n'y a plus de chemin, parce qu'il n'y a pas de loi pour le juste. C'est en ce sens qu'on peut comprendre la parole de Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Bien sûr. Mais c'est mystique. C'est pas aime et fais n'importe quoi. Aime et fais ce que tu veux dans l'amour du bon Dieu. Il n'y a plus de chemin. Ceci signifie que le sentier qui conduit à la contemplation infuse n'est pas soumis à des règles. Il n'y a pas de règles. Car Dieu la donne à qui il veut et quand il veut. À qui il veut et quand il veut. Sans que l'âme y puisse contribuer en quoi que ce soit de sa part. Ce sentier va en s'élargissant par toutes les vertus cardinales et théologales, avec les dons du Saint-Esprit, pour aboutir à la large esplanade qui couronne la montagne et sur laquelle la divine sagesse, voyez, divine sagesse, darde sa divine lumière, sa vive lumière. Dans cette lumière se dresse le banquet perpétuel. Voyez, juste sous le Saint-Esprit, le banquet perpétuel. Le chemin est direct. Il n'y a pas de bifurcation. C'est direct. Pas comme les autres chemins, chemin de droite, où ça monte un petit peu, ça, c'est un petit peu sinueux, pour partir en enfer. Ça, ce chemin n'est pas à prendre. Le chemin de gauche, un chemin assez joli, ça monte bien spirituel, donc on monte un petit peu, et puis, pas d'ici. Donc on s'est trompé de route. Là, le chemin est vraiment direct. Plus les âmes avancent dans cette voie, plus l'action divine se manifeste et par conséquent, plus l'action humaine devient paisible et féconde. Bien sûr, parce que Dieu va donner quelque chose à l'âme, quelque chose de vraiment nourrissant. Dans toutes les œuvres de Saint Jean de la Croix, cette doctrine va être expliquée. Je vous rappelle les titres de ces œuvres, la montée du Carmel, la nuit obscure, le cantique spirituel et la vive flamme d'amour. Dans les deux premiers, ces ouvrages ne nous sont pas parvenus complets. Des 8 strophes du poème, une seule est expliquée à 2 reprises dans la montée du Carmel, tandis que la nuit obscure, il manque les commentaires des 6 dernières strophes dans lesquelles le saint devait nous révéler les effets admirables de la lumière spirituelle et de l'union d'amour avec Dieu. La montée du Carmel et la nuit obscure ne forment d'une certaine façon qu'un seul ouvrage, un seul traité. Dans la montée du Carmel, le saint se limite à donner des règles d'ascétisme qui permettent à l'action divine d'agir librement, en toute saison de l'esprit, à n'importe quel âge de la vie spirituelle. Et dans le deuxième ouvrage, La nuit obscure, Saint Jean de la Croix va nous donner l'exposé du travail divin. Alors, continuons. Continuons ce parcours. Ce parcours, vous voyez, dans les biens de la terre, à droite, en bas, le chemin de l'âme égarée, le goût, la liberté, l'honneur, la science, le repos. Ça, c'est des biens de la terre, ça. Celui qui cherche uniquement cela n'ira jamais vers le bon Dieu. Il cherche sa propre satisfaction, il cherche à se contenter personnellement. Il est égoïste, il ne pense pas à Dieu, il ne pense qu'à lui-même. Et vous voyez sur le chemin qui mène en enfer, ces mots exprimés, ces mots marqués, plus je les ai cherchés, et moins je les ai trouvés. Je n'ai pas pu parvenir à la montagne pour m'être trompé de chemin. Chemin de gauche, chemin des biens spirituels, mais qui ne mène pas vers le bon Dieu. La gloire, la sûreté, les joies, les consolations, le savoir, c'est bien, mais c'est imparfait. Ce n'est pas mal, mais c'est imparfait. C'est imparfait. Et sur ce chemin, c'est difficile à lire, mais... J'ai eu moins pour les avoir recherchés que si j'avais gardé le sentier. Plus je tarde et moins je m'élève pour n'avoir pas pris le chemin. Voilà, l'âme s'est trompée. Et l'âme n'arrive pas à la contemplation mystique que Dieu voulait lui réserver. Mais ce chemin est étroit maintenant. Voyons ce qu'en dit Saint Jean de la Croix, justement, quant aux attaches dont il nous parlait tout à l'heure. Le saint pose comme condition indispensable à l'union parfaite l'absolue sanctification de tous les appétits. Il faut renoncer à tous les appétits naturels. Il prend l'exemple de l'oiseau. C'est tiré de la montée du Carmel, livre 1, chapitre 11. Qu'un oiseau soit lié à la patte par un fil mince ou par un fil épais, peu importe. Il ne lui sera possible de voler qu'après l'avoir rompu. De même, il en est de même des attaches de l'âme. Elle aura beau pratiquer la vertu, il faut qu'elle soit libre avant d'arriver à l'union divine. Et il est vraiment déplorable de voir certaines âmes portant, comme de beaux navires, de riches cargaisons d'œuvres et d'exercices spirituels, côté de gauche, de vertus et de dons reçus de Dieu, et qui, parce qu'elles n'ont pas le courage d'en finir avec quelques pauvres satisfactions, attaches ou affections, ce qui est tout un, n'avanceront jamais, et n'entreront pas au port de la perfection. Il suffirait pourtant d'un bon coup d'aile pour briser ce fil et enlever le remords de l'appétit. Et pourtant, ce sont de belles âmes. Mais une petite attache, si petite soit-elle, leur empêche d'avancer vers le bon Dieu. Comme c'est malheureux, comme c'est triste. Se disant, le saint ne vise que les appétits volontaires, les attachements naturels déréglés, les passions qui ne concernent pas Dieu. Il continue, dans la montée du Carmel, les appétits naturels ne s'opposent que peu au point ou point à l'union de l'âme avec Dieu quand ils ne sont pas consentis et ne dépassent pas un premier mouvement. Je donne naturel et de premier mouvement tous ceux où la volonté rationnelle n'a eu aucune part, ni avant ni après. Les faire disparaître ou les mortifier complètement est impossible dans la vie d'ici-bas. Sans même qu'ils soient tout à fait mortifiés, leur action n'est pas de nature à empêcher l'accès à la divine union. Le tempérament suffit parfois pour les produire, tout en laissant l'âme bien libre selon l'esprit rationnel. Donc, il faut faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir, pour nous arracher à ces attaches et ne plus nous attacher qu'à Dieu. Voyons le sommet lumineux. Je peux encore vous lire cette citation de Saint Jean de la Croix sur les attaches. L'âme doit passer, si elle veut atteindre l'union divine, par la nuit obscure, qui mortifie les sens et supprime la jouissance des choses créées. Pour quel motif, demande-t-il? Parce que les attaches aux créatures sont toutes, aux yeux de Dieu, de pures ténèbres. L'âme qui en est enveloppée s'efforcera en vain, sans purification préalable, de revêtir la pure et simple lumière de Dieu. Saint Jean l'affirme, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Or les ténèbres sont les attaches aux créatures. Il suit de là que celui qui est dans les ténèbres ne comprend rien à la lumière, et que l'âme attachée aux créatures est incapable de comprendre Dieu. Il faut nécessairement qu'elle se purifie sous peine de ne le posséder ni ici-bas, par la transformation pure d'amour, ni là-haut, par claire vision. J'ose affirmer, dit-il, qu'un seul appétit désordonné, même sans qu'il soit entaché de péché mortel, suffit pour mettre l'âme dans un tal état d'obscurité, de laideur, de malpropreté, qu'elle devient incapable d'une union quelconque avec Dieu, aussi longtemps qu'elle ne s'en est purifiée. De même, les appétits, quand ils ne sont pas mortifiés, en arrivent à cet excès qu'ils tuent la vie divine dans l'âme. Comme exemple d'imperfection habituelle, citons le verbiage. Une légère attache qu'on ne se décide pas à rompre, qu'il s'agisse d'une personne, d'un vêtement, d'un livre, d'une cellule, d'un plat qu'on préfère, petite familiarité et léger attrait vers ce qui plaît, tout savoir et tout entendre, et autre satisfaction de même espèce, la curiosité, même pas forcément pour des vilaines choses, pour des choses pécamineuses, mais tout savoir, tout connaître, les journaux, la radio, que de curiosité dans une seule journée. C'est des attaches. On ne peut pas parvenir à l'union à Dieu par ses attaches. Et là, on ne parle pas de péché mortel, mais l'attache
à des petites choses. Chacune de ces imperfections, si la tâche en est habituelle, retardera plus le progrès dans la vertu que si l'on tombait dans tous les jours en d'autres nombreuses imperfections, voire plus graves et véniels, qui ne procéderaient pas de l'habitude acquise par une disposition vicieuse. Le démon a pouvoir sur l'âme en tant qu'elle est attachée aux choses passagères et matérielles. Pour entrer dans la divine union, tout ce qui vit dans l'âme doit mourir, que ce soit peu ou beaucoup. Et c'est ce que saint Paul aux Corinthiens nous dit dans le chapitre 7, verset 29. Donc c'était les appétits volontaires, naturels volontaires. Maintenant, appétits naturels non volontaires. Aux pensées de premier mouvement, aux diverses tentations non consenties, je n'en parle pas ici. Ils sont sans effet nocifs pour l'âme. Il arrive que la personne qui les éprouve, à cause de la passion et du trouble momentané, s'imagine en être souillée et aveuglée. Mais au contraire, l'effet en est plus heureux. Par cela même qu'elle résiste, il se produit en elle un accroissement de force, de pureté de lumière, de consolation, avec plusieurs autres biens. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dit à saint Paul, « La vertu se perfectionne dans la faiblesse. » C'est quand je suis faible, dira saint Paul, que je suis fort, faible humainement, fort de la grâce du bon Dieu. Et les appétits volontaires font cause de tous les maux. C'est pourquoi le principal souci des maîtres spirituels doit être d'imposer aussitôt à leurs disciples la mortification de n'importe quel appétit. Il faut mourir à soi-même. C'est là la vraie doctrine de saint Jean de la Croix. Bien sûr, ça va passer par des difficultés, par des renoncements, par des sacrifices. Mais la vie chrétienne, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai commencé par cette parole de notre Seigneur, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Il faut absolument lui mortifier. Alors, tout ce travail de mortification est fait, en théorie, maintenant, après ça, la pratique, bien sûr. Il faut toujours passer à la pratique après la théorie. Mais non, ce soir, quand même, vous mangerez ça. Rassurez-vous. Le repas sera servi à 6h30, comme tous les soirs. Le sommet lumineux. Voyons quel sommet lumineux le bon Dieu va nous... Vers quel sommet lumineux le bon Dieu va nous conduire. Vous voyez, le banquet perpétuel, la divine sagesse, le divin silence, le silence de Dieu. Quel est donc, dit saint Jean la Croix, quel est donc ce banquet auquel aspire l'intrépide voyageur qui a choisi pour effectuer l'ascension de la montagne le sentier abrupt et étroit. Il n'est autre que Dieu lui-même qui se donne à sa créature dans la vision béatifique selon cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans saint Luc, « Tous, vous êtes demeurés avec moi dans les épreuves et moi, je vais vous préparer un royaume, comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » Le royaume de Dieu. Notre Seigneur veut nous y préparer. Notre Seigneur veut nous y conduire, à ce royaume. Cet aliment dont le Père Céleste rassasie ses élus n'est autre que sa divinité. Nous sommes fils de Dieu, par le baptême. Sa propre essence, par quoi il est, ce qu'il est. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Moïse, qui demandait, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dieu disait, va parler à mon peuple. Mais oui, mais qui êtes-vous? Je suis celui qui suis, l'essence de Dieu, l'éternel présent. Dieu est. Et quand on a dit ça, on a tout dit de Dieu. Dieu est. Par quoi il est ce qu'il est, et ce dont il se nourrit lui-même dans les splendeurs de sa gloire, avec le Verbe, le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit. C'est à l'abondance de cette table divine que l'âme est conviée à la fin de son pèlerinage. Que dis-je? Parce que la vie... C'est toujours saint Jean de la Croix qui parle. Parce que la vie de gloire a son germe dans la vie de la grâce, il est déjà donné à l'âme sainte de se nourrir dès ici-bas des miettes de cette table royale. Revêtue de la robe nuptiale, par la grâce du baptême, elle participe à ce bouquet spirituel selon les conditions inférieures de sa vie terrestre. Bien sûr, qu'on ne s'y méprenne pas. Saint Jean de la Croix n'assigne pas précisément la contemplation comme but à atteindre. C'est à l'union qu'il convie l'âme, l'union à Dieu, par la contemplation. La contemplation va être un moyen qui va nous conduire à l'union à Dieu, bien sûr. Il le déclare beaucoup de fois. À maintes et maintes reprises, il déclare que c'est l'union à Dieu qui est cherchée. Voilà vraiment sa mystique du saint. Cette union, nous venons de le dire, c'est cette charité. Et vous voyez le mot charité dans la montagne. Avec en dessous la foi, l'espérance, et bien sûr aussi la sûreté, la vraie sûreté. Non pas celle que on a vue tout à l'heure dans les biens du ciel seulement. Les biens, mais qui ne conduisent pas au véritable ciel. Les biens imparfaits. C'est une autre sûreté parce que Dieu est véritablement présent maintenant. Parce qu'on est passé par le rien du départ. Il a fallu passer par la nuit de sens, la nuit d'intelligence, la nuit de la volonté. Donc charité. Et Dieu est charité. Saint Jean ne se lassera pas de le dire dans ses épîtres et même dans son évangile. L'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de la charité du bon Dieu. Ses épîtres, il chante à plusieurs reprises la charité de Dieu. Dieu est charité, dira-t-il. Le divin silence. Le degré suprême de la contemplation et de la perfection chrétienne que le saint identifie se réalise dans l'union d'amour, en union transformante. Il nous dit, Saint Jean de la Croix, il nous dit, la vie spirituelle parfaite, c'est la possession de Dieu grâce à l'union d'amour. La vie spirituelle parfaite, c'est la possession de Dieu grâce à l'union d'amour. On peut parler, dans cette union d'amour, au mariage spirituel, qui va passer, comme un mariage naturel, par des fiançailles. Les fiançailles du monde sont pour que le jeune homme, la jeune fille, puisse se connaître avant de se marier. Dans le même plan, bien sûr, un plan surnaturel, bien sûr, mais au même procédé, je veux dire, le bon Dieu va faire en sorte de la même façon avec nous. Il y aura des fiançailles spirituelles pour aboutir au mariage mystique. Ces fiançailles vont se réaliser par la croix. Dieu nous convie à être ses amis, mais il donne la croix. Évidemment, c'est très difficile. Mais Dieu donne toujours les grâces pour réaliser ce mariage mystique. Et encore une fois, ça n'est pas seulement les religieux qui sont conviés à ce mariage mystique, mais toute âme baptisée. La perfection est, une fois de plus, le lot de toutes les âmes baptisées. Et si on n'arrive pas à la perfection, on a raté notre vie sur la terre ici-bas. La vie mystique, l'union divine, c'est le but que vers lequel doivent tendre toutes les âmes débaptisées, toutes les âmes créées par le bon Dieu. La divine sagesse. Lisons ce que Saint Jean de la Croix nous donne dans le cantique spirituel. L'âme va être transformée par l'amour du bon Dieu. Dieu est amour, je vous l'ai dit tantôt. Dieu est amour, et l'âme transformée en amour transforme elle-même à son tour tout en amour. Comme l'abeille, dit-il, comme l'abeille qui extrait de chaque fleur le miel qui s'y trouve et ne se sert de la fleur qu'à cet effet, ainsi l'âme tire avec la plus grande facilité de tout ce qu'elle rencontre, soit agréable, soit pénible, la douceur de l'amour qu'elle éprouve en aimant Dieu en lui-même. Elle ne sait plus quoi aimer et tout ce qu'elle goûte en toutes choses et en toutes circonstances est toujours la jouissance du divin amour. Mais l'amour qui mène à cette sublimité n'est pas un amour de parole. Ce n'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur, qui fait ma volonté ». C'est celui qui m'aime vraiment, celui qui pratique mes commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est fixer en lui la force de sa volonté, de la volonté. La volonté, c'est différent du sentiment. Ça Ce n'est pas avec du sentiment qu'envers le bon Dieu. C'est avec la volonté, avec l'âme. Ce n'est pas le sentiment, en effet, mais la volonté, bien la volonté, qui mène à Dieu et le fait aimer dans l'oubli de tout et par-dessus tout. Dans l'oubli de tout, dans toutes les attaches, il faut les oublier. Il faut les oublier. Sans s'attacher à la douceur de cet amour. Comme disait Saint François de Sales, il faut non pas aimer les consolations de Dieu, mais le Dieu des consolations, c'est-à-dire Dieu lui-même. Non pas s'attacher aux consolations, mais à Dieu lui-même. Voyons là rapidement le sentier. Nous avons parlé de ces sentiers, mais je voudrais y revenir un petit peu, car il y a encore à trouver dans ces sentiers. Cette doctrine est vraiment très dense, et en une petite conférence, on peut difficilement donner toute la doctrine du saint. Il faut s'y replonger, il faut lire ensuite les ouvrages du saint. Si nous cherchons les goûts, la liberté, les honneurs, la science, le repos, c'est un chemin large, mais qui conduit à la perdition. Plus je recherche les biens de la terre, et moins je les trouve. Je ne puis gravir la montagne pour mettre trop peu de chemin. Vous voyez, les biens de la terre, plus on en a, plus on en veut. On est insatiable, mais plus ils dégoûtent. On s'en rassasie bien vite, on s'en lasse bien vite, et on en veut toujours plus. Et ils dégoûtent, parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire les aspirations de l'âme. Chemin de droite, chemin de gauche sera pratiquement pareil, il n'aboutira pas à Dieu. Parce que elle n'a pas, cette âme, la pureté du cœur. Elle n'agit pas pour Dieu lui-même, mais pour ses propres intérêts. Alors elle va faire fleurir en son âme différentes qualités, différentes vertus. Elle voudra avoir des consolations, mais pas Dieu. Et se cherchera elle-même. Elle n'a pas purifié son âme, elle n'a pas purifié son cœur. À cette âme, Saint Jean de la Croix fait dire, « En m'attardant, je suis monté moins haut pour n'avoir pas pris le sentier. » Il faut chercher le vrai sentier qui conduit vers le bon Dieu. Et Sainte Marie-Madeleine de Pazzi disait, « L'amour fait souffrir et la souffrance fait aimer. » L'amour nous fait souffrir et la souffrance nous fait aimer. Il n'y a pas de véritable amour sans souffrance, il n'y a pas de véritable souffrance sans amour. C'est vrai. Voyez la croix. Le bon Dieu nous a montré son amour par sa souffrance. Il aurait pu nous sauver bien autrement, il a voulu nous montrer qu'il nous aime par sa souffrance. Et si nous voulons ressembler à Dieu, et cette aspiration est légitime, il faut être de vrais fils de Dieu, il faut savoir que pour aimer le bon Dieu, il faut passer par la souffrance. Non pas pour elle-même, mais pour Dieu. Pour Dieu, bien évidemment. Alors ce chemin est étroit, ce chemin est raide. Et 6 fois, le saint nous répète rien, rien, rien et encore rien. Ce n'est pas ni une velléité, mais une chimère. Il indique, au contraire, et prêche le dépouillement total. Le renoncement chrétien est absolu. L'âme qui s'engage dans sans peur en cette voie, bien résolue à y persévérer, doit être prête à tous les sacrifices, quelque douloureux qu'ils soient, à tous les renoncements, si pénibles qu'ils puissent être, à tout le dépouillement, quelque cruel qu'il se présente. Il ne faut pas penser au croire que le bon Dieu nous enverra. Il faut vouloir Dieu. Et quand on a Dieu, tout est là. Dieu seul suffit, dira Sainte Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Tout le reste n'est que paille. Tout le reste n'est que détritus. Tout le reste ne sert de rien pour le bon Dieu. Celui qui veut arriver au plus haut degré de l'amour, doit auparavant connaître les douleurs les plus aiguës. Seules les âmes qui ont parcouru le chemin indiqué par Saint Jean de la Croix et ont traversé le nid mystique pourraient nous dire jusqu'où vont les exigences de l'amour divin et combien sont terribles les jalousies de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Déjà, dans l'Ancien Testament, il nous le dit, « Je suis un Dieu jaloux. » Dieu veut toute la place. Il ne supporte pas qu'on puisse mettre en parallèle, à égalité, Dieu et le monde, Dieu et les créatures, quelles qu'elles soient. Il faudra servir des créatures pour monter à Dieu, bien évidemment. Mais il ne faut pas s'attacher aux créatures. Dieu uniquement. Voulez-vous aimer Dieu? Voulons-nous aimer Dieu? Eh bien, cette transformation d'amour exige invinciblement que l'âme se rende digne de Dieu. Nous lisons tous les jours dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, être enfant de Dieu, il faut suivre notre Père. Notre Père est mort sur une croix et nous, nous voudrions vivre comme des rois qui n'ont pas à souffrir. Et non. Alors nous ne sommes pas de vrais fils de Dieu. Voilà donc à quoi nous convie Saint Jean de la Croix. Ça peut paraître exigeant, ça peut paraître dur, mais Dieu vit dans notre âme après ça. Il faut nous purifier, il faut nous mortifier, il faut mourir à nous-mêmes, et alors, le bon Dieu sera le tout de notre existence. Pour terminer, je voudrais vous lire une phrase de Saint Jean de la Croix. Mon bien-aimé, tout pour vous et rien pour moi, mais aussi rien pour vous et tout pour moi. C'est-à-dire, je veux pour vous tout ce qui est suave et savoureux, et je n'en veux aucune part pour moi. Mais tout ce qui m'est amer et pénible, je le veux pour moi, sans que vous en ayez aucune part pour vous. Oh, comme votre présence me sera douce, puisque vous êtes mon souverain bien. Je veux silencieusement m'approcher de vous et découvrir votre race divine, afin que vous consentiez à m'unir à vous, en prenant mon âme pour votre épouse. Seuls vos baisers me rendront heureux. Et maintenant, ô mon Dieu, je vous prie de ne plus me quitter, car je fais de mon âme aucun cas. Alors, à nous maintenant de travailler. Dieu est notre tout, Dieu seul suffit, rien de ce qui est créé peut nous suffire, car Dieu est vraiment notre vie, notre chemin et notre béatitude éternelle. Merci de m'avoir écouté.